Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutuc que je salue. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Il était arrivé au tribunal voûté, accroché à son déambulateur. Harvey Weinstein en est ressorti menotté, reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle, immédiatement écroué à Rikers Island en attendant de connaître sa peine le 11 mars prochain. Harvey Weinstein a été hospitalisé en raison de douleurs à la poitrine. Il s'agit de la première reconnaissance de culpabilité dans une affaire post-MeToo.
L'épidémie de pneumonie virale s'est accélérée à travers le monde avec des bilans en forte hausse de la Corée du Sud à l'Iran, en passant par l'Italie.
L'Italie qui compte désormais 7 morts, premier pays du continent européen à mettre en place un cordon sanitaire autour d'une dizaine de villes du Nord. Le directeur général de l'OMS appelle à se préparer à une éventuelle pandémie.
La France est prête à répondre à la menace. Le ministre de la Santé se veut rassurant.
Comment la filière élevage peut-elle contribuer au développement durable? La question est au cœur du salon de l'agriculture pour répondre notamment aux critiques des associations de défense du bien-être animal.
Et puis pour poursuivre, Catherine, avec le salon de l'agriculture, on va évoquer la baisse du nombre d'agriculteurs en France. On sera en ligne avec François Purseigle. Il est professeur des universités en sociologie à l'ENSAT.
C'est un verdict qui change le cours de l'histoire selon le procureur de Manhattan. Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle par un jury new-yorkais. Le producteur hollywoodien déchu, qui risque jusqu'à 29 ans de prison, échappe en revanche à la perpétuité. Le jury l'a disculpé de la circonstance aggravante de comportement prédateur. Cette décision offre malgré tout une première victoire significative au mouvement MeToo, Loïc Loury.
Le début d'une nouvelle ère de justice. Voilà comment la présidente du mouvement Time's Up, fondée après l'éclatement de l'affaire Weinstein, évoque ce verdict. Celui qui fut un faiseur de roi à Hollywood dormira en effet en prison en attendant sa sentence le 11 mars prochain et il y restera au moins 5 ans. Ces femmes ont changé le cours de l'histoire, se félicite le procureur de Manhattan, Cyrus Vance. C'est un jour nouveau parce qu'Harvey Weinstein doit enfin rendre des comptes pour les crimes qu'il a commis. Les femmes qui ont témoigné avec courage en dépit du risque, ont rendu cela possible. Weinstein est vicieux, c'est un prédateur sexuel en série. Cette décision, incontestablement, est une victoire pour le mouvement MeToo, né de l'affaire Weinstein il y a plus de 2 ans. Certes, l'ex-producteur ne sera pas condamné à la perpétuité, il a été reconnu non coupable de comportement prédateur, circonstance aggravante qui aurait pu l'envoyer à vie derrière les barreaux. Pas de quoi adoucir une décision injuste, affirme l'un de ses avocats, Arthur Aidala. Il était en état de choc, il est resté stoïque, mais répétait « je suis innocent ». Aucun doute dans mon esprit, s'il s'était appelé Harvey Jones ou Harold Jones, il n'aurait même pas été poursuivi. Les preuves n'étaient pas si convaincantes. L'équipe d'Harvey Weinstein a immédiatement annoncé sa volonté de faire appel. Elle aura fort à faire, puisque l'ancien producteur doit aussi répondre d'une autre inculpation pour 2 agressions sexuelles, cette fois en Californie.
Et en attendant ces nouvelles affaires, Gloria Allred, avocate de 2 des plaignantes et spécialisée dans le droit des femmes, savoure cette première victoire. Elle s'est adressée hier aux défenseurs d'Harvey Weinstein.
It's no longer business as usual.
Le temps de l'impunité est révolu aux États-Unis. Les femmes désormais s'émancipent, se défendent. Et vous ne pouvez plus les intimider, parce qu'on ne fera plus taire les femmes. Elles parleront haut, leur voix sera entendue, elles se tiendront droites face à votre petite armée d'avocats de la défense, à leurs contre-interrogatoires, à leurs tentatives de les discréditer, de les humilier, de leur faire honte, et se tiendront malgré tout à leur vérité. Alors, Harvey Weinstein, cette décision de justice a mis du temps à venir, mais elle est enfin là et ce n'est pas la fin.
Justice has been a long time coming, but it's finally here. And it's not the end.
Gloria Allred, spécialiste du droit des femmes, Harvey Weinstein risque, je le rappelle, après sa condamnation jusqu'à 29 ans de prison. Il connaîtra sa peine le 11 mars prochain. L'Italie va organiser cet après-midi une réunion des ministres de la Santé des pays frontaliers de la péninsule pour déterminer des lignes d'action communes face à l'épidémie de coronavirus. Épidémie qui a tué 7 personnes en Italie, 230 contaminés au total. L'Italie, pays le plus touché par le Covid-19 en Europe, le 3e au monde après la Corée du Sud et la Chine. Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Culture à Milan, où un hôpital militaire est censé accueillir les cas suspects. L'Italie, où les critiques commencent à voir le jour sur la gestion de la crise, Bruce.
Ah oui, et c'est le président du Conseil italien qui s'en prend aux gouverneurs des régions du Nord. Elles ont beaucoup de pouvoir en Italie, et notamment en matière de santé. Et c'est la prérogative des régions à 80%. Et Giuseppe Conte a estimé que l'hôpital de Codogno, qui a recensé le premier cas, le premier foyer de coronavirus, n'a pas suivi le protocole. Le président du Conseil menace de reprendre le pouvoir aux gouverneurs. Selon lui, il faut mieux coordonner les actions des différentes régions, les fermetures des lieux publics notamment, pour être efficace. Il a convoqué une réunion de tous les gouverneurs ce matin. Mais les communes ont aussi fait leur propre choix. Par exemple, à Milan, où je me trouve, la plupart des lieux publics sont fermés. Les mesures sont très restrictives pour une si grande ville. Sauf que, selon le maire, les règles ne se discutent pas. Giuseppe Sala a aussi demandé aux habitants de prendre soin des plus fragiles, les personnes âgées, au lieu de penser à soi et à se jeter sur la nourriture dans les supermarchés.
Bruce de Galzin, en direct de Milan ce matin pour France Culture. Merci à vous. L'Italie, donc, troisième pays au monde le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Conséquences en cascade, des matchs de football en Ligue Europa notamment se tiendront à huis clos dans les jours à venir. Report de matchs de rugby également, de courses cyclistes comme le Milan-San Remo pourrait être annulé. Et puis la production du prochain volet Mission Impossible qui devait bientôt être filmé à Venise avec Tom Cruise en vedette. Cette production a été interrompue. En Corée du Sud à présent, 60 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés aujourd'hui, ce qui porte à 893 précisément le nombre de personnes infectées dans le pays. Au cœur de l'épidémie, une secte et 200 000 fidèles que les autorités espèrent examiner. De son côté, la Chine annonce ce matin 71 décès supplémentaires dus au coronavirus, le chiffre quotidien le plus bas depuis deux semaines maintenant. Mais l'inquiétude persiste. L'OMS évoque un risque de pandémie sur fond de dégringolade des marchés financiers en Asie encore ce matin. Et en Europe, hier. Après un accueil spectaculaire, les affaires reprennent en Inde pour Donald Trump, qui doit encore enchaîner aujourd'hui les entretiens bilatéraux à New Delhi. L'Inde et les États-Unis se livrent depuis plusieurs mois maintenant un bras de fer autour de leurs échanges de biens et de services, frappant leurs produits respectifs de taxes douanières, sans comparaison avec la guerre commerciale que se livrent Washington et Pékin. Mais Donald Trump estime que les entreprises américaines n'ont pas un accès suffisant au marché intérieur de l'Inde et de son 1,3 milliard d'habitants. La balance commerciale penche en défaveur de Washington à hauteur de 25 milliards de dollars. Et puis derrière le décor de cartes postales couchées de soleil au Taj Mahal, hier pour le couple Trump, les défenseurs des droits de l'homme ont eux noté l'accueil par le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, connu pour ses sorties médiatiques contre les musulmans. Une voiture a foncé dans un défilé de carnaval à Volkmarsen dans le centre de l'Allemagne, faisant plus de 30 blessés, des enfants notamment. L'hypothèse d'un attentat semble exclue pour l'instant. Le conducteur du véhicule a été arrêté.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Au Royaume-Uni, de l'eau dans le gaz entre le gouvernement britannique et les services de renseignement.
Selon le Times, le MI5 a sciemment dissimulé des informations à Priti Patel, la ministre de l'Intérieur, par manque de confiance, obligeant ainsi Boris Johnson et son équipe à réagir et à démentir Antoine Gignot.
C'est le porte-parole du gouvernement qui le dit. Priti Patel, la ministre de l'Intérieur, a une relation de travail solide et sérieuse avec les services secrets. Elle reçoit les mêmes informations que ses prédécesseurs. Boris Johnson, le Premier ministre, lui renouvelle toute sa confiance. Son porte-parole évoque des rumeurs fausses et sans fondement, sans réussir vraiment à étouffer la polémique. Le Times continue d'affirmer que Priti Patel est coupée de son équipe, qu'elle harcèle les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, qu'elle a tenté de faire partir l'un d'entre eux et révèle maintenant que la ministre a demandé une enquête interne pour savoir qui a donné des informations aux journalistes. Elle leur a raconté que lorsqu'elle prend la parole pendant les réunions, les responsables du MI5 lèvent les yeux au ciel. Ce sont des attaques misogynes de la part de son équipe, commente une ancienne ministre. La situation illustre surtout la tension entre l'équipe de Boris Johnson, déterminée à embaucher de nouveaux conseillers, et les fonctionnaires qui travaillent au gouvernement.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Et dans une Europe post-Brexit, quelle sera la future relation entre le Royaume-Uni et les 27? La pêche, premier écueil sur lequel les discussions risquent d'achopper. On y revient dans le journal de 7h30. Les conditions d'abattage, d'élevage, un régime alimentaire trop carné. La filière élevage a été beaucoup critiquée ces dernières années, notamment par les associations de défense du bien-être animal, avec des vidéos chocs encore la semaine dernière de l'association L214. Face à ces critiques récurrentes, depuis plusieurs années déjà, la filière a mis en place différentes mesures et un cahier des charges qui doit lui permettre de respecter ce qu'on appelle désormais la RSO, la responsabilité sociétale des organisations. Un premier rapport d'étape a été publié hier sur le site de la filière bovine au Salon de l'Agriculture Anne Lorchouin.
Cela fait 7 ans que la filière a commencé ses travaux avec notamment l'organisme de certification AFNOR qui propose une norme, la norme ISO 26000, définissant comment les organisations peuvent et doivent contribuer au développement durable. Son évaluation porte sur toute la chaîne, des conditions d'élevage à la valorisation en passant par les conditions d'abattage. En 2018, une première évaluation a eu lieu. 18 mois plus tard, l'AFNOR a donné une note. Le label engagé RSE de niveau 3 sur 4, une bonne note donc à l'interprofession bovine. La filière a tout intérêt à cette labellisation car souvent une meilleure empreinte écologique, c'est une meilleure performance économique. Mais là où s'arrête le travail de l'éleveur, aux portes de l'abattoir, le travail reste à faire. L'objectif pour l'instant, c'est que toutes les entreprises transportant et abattant des animaux soient diagnostiquées d'ici 2021, avant d'aller plus loin. Mais pour Bruno Dufayet, président de la commission Enjeux sociétaux de l'interprofession bovine, c'est surtout parce que le monde de l'abattage est mal connu qu'il suscite tant d'émotions.
De toute façon, une image d'abattage, même moi éleveur, à un moment, ça choque toujours. On a un guide de bonnes pratiques de protection animale voilà, qui a été fait pour les abattoirs, qui est en train d'être déployé dans tous les outils d'abattage, où on intègre justement l'enjeu circulation de l'animal. L'objectif, c'est d'arriver à avoir un couloir de circulation le plus naturel possible, où on n'a pas besoin de la présence de l'homme pour que l'animal avance. Et ensuite, tout un travail sur la contention de l'animal au moment de l'acte d'abattage et l'étourdissement. C'est une obligation que doivent remplir chaque abattoir pour pouvoir justement abattre des animaux à destination d'un label.
Et justement, le label rouge, qui pour l'instant ne prend en compte que les qualités nutritionnelles de la viande, pourrait à l'avenir intégrer les conditions d'élevage et d'abattage.
C'est la plus grosse réserve mondiale de semences et elle est située dans l'Arctique. L'Arche de Noé Végétale doit accueillir aujourd'hui un important arrivage de semences, plus de 60 000 échantillons, propriété de 36 banques génétiques régionales et internationales. Elles vont rejoindre une chambre forte enfouie dans une montagne en Norvège, à un millier de kilomètres du pôle Nord. Le temps de ce mardi 25 février, marqué par de la grisaille et des averses. Les températures sont comprises ce matin entre 3 et 8 degrés en général, jusqu'à 10 près des côtes. Au meilleur de la journée, il fera de 8 à 12 degrés sur la moitié nord du pays, de 10 à 15 au sud, jusqu'à 21 près de la Méditerranée.